dans cette semaine où nous allons mettre les femmes à l'honneur. Chers amis auditeurs et auditrices, je vous emmène à la rencontre de Madame Renée-Marie Guibert, qui est une figure, on peut le dire, de Castelnau-Moratier. Bonjour Renée-Marie.
Bonjour.
Alors on va dire tout de suite, si vous le voulez bien, votre âge. Vous avez 95 ans, c'est ça ?
C'est ça, j'ai 95 ans.
Vous avez un grand parcours très intéressant. On va peut-être parler déjà de ce que vous avez réalisé à Castelnau-Moratier et dans votre parcours en général. Vous étiez libraire, c'est ça ?
Oui, mon parcours, c'est le livre. Libraire, ou critique de livre, ou voilà, c'est le livre qui m'a toujours intéressée. J'avais été libraire à Paris. Et après, ça a été mon dernier poste, ça a été la FNAC de Toulouse.
Alors, qu'est-ce que vous y avez fait à la FNAC ?
J'ai créé le rayon librairie.
Et donc, vous êtes arrivé dans le Lot et vous avez été à l'initiative avec l'ancien maire de Castelnau-Moratier, justement, de la bibliothèque située dans maintenant la maison Jacob, en faisant don, je crois, de pas mal de bouquins d'enfants au départ, c'était ça ?
Exactement. Quand j'ai quitté la FNAC de Toulouse, que j'ai pris ma retraite, j'ai été voir tout de suite André Valmary, que je connaissais très bien, qui a été le maire pendant de très longues années de Castelnau, et j'ai été lui dire, il vous manque quelque chose, vous n'avez pas de bibliothèque. Si vous voulez, je vous en crée. Je vous donne des livres pour la base. Et puis lui, grâce à ses relations et tout, on a augmenté très 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 vite le fonds en ayant des dons, voilà.
Au départ, une bibliothèque pour enfants, c'est devenu évidemment une bibliothèque aussi pour adultes après.
Oui, parce que moi, au début, je n'ai donné que des livres de jeunes et d'enfants. Je n'avais pas les fonds pour faire une... Et puis, je faisais ça bénévolement. Mais enfin, je n'ai pas voulu faire ça longtemps, longtemps, longtemps. Et dans le fond, c'était intéressant de créer un poste salarié de bibliothécaire. Voilà. Donc, il y a eu... Et moi, je me suis retirée, j'étais que supervisée, quoi.
Mais vous êtes aussi à l'origine du lieu d'exposition, c'est-à-dire la Maison Jacob.
Tout à fait, parce que la Maison Jacob se prêtait à faire de belles expositions, et puis des réunions littéraires aussi. On avait des après-midi où on venait parler de nos lectures, chacun.
Donc c'est un lieu d'exposition qui a reçu des artistes locaux, mais aussi des artistes de renommée internationale. Et je crois que vous étiez ami avec M. Klein, le photographe.
Oui, il y a eu une très belle exposition de Klein. Et on a eu un grand exposant américain. Oui, on a fait de belles expositions.
Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu sur votre parcours de vie ? Vous venez du Nord, je crois.
Oui, je suis fière de dire que je suis du Nord, de Cambrai. Bon, mon parcours de vie, eh bien, quand j'ai travaillé, le premier poste salarié, c'était libraire. Voilà, le livre m'a toujours intéressée.
Alors, on revient sur votre âge. Vous avez traversé la guerre, vous en avez vécu des choses. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la transformation du monde en 95 ans ?
Énorme. Et quand vous me parlez de la guerre, moi j'y pense en ce moment avec ces réfugiés. Parce que en 40, nous avons quitté le Nord pour aller dans le Midi parce que nous étions des réfugiés. Bon, on n'est pas resté très longtemps parce que on a été occupé tout de suite. On est remonté dans le Nord. Notre maison n'était pas détruite. Donc on s'est réinstallé pour 4 ans dans le Nord pendant la guerre.
Donc ça vous réveille de mauvais souvenirs ?
Des souvenirs très durs quand même. Je me souviens de mon désespoir, j'avais 14 ans, le jour où j'ai entendu à la radio le maréchal Pétain disant de sa voix chevrotante qu'il était obligé de demander l'armistice. J'étais vraiment humiliée et j'allais dire que j'ai été humiliée pour ma vie. Parce que à 14 ans, on a déjà une idée de la patrie. Alors pour moi, on était en guerre, forcément on allait être vainqueur. Et voilà qu'au bout de quelques mois, on demande l'armistice. Pour moi, ça a été l'humiliation.
Vous avez souffert
On n'a pas trop souffert à Cambrai, parce qu'on n'habitait pas exactement comme on habiterait tout près. Et on avait une maison avec un grand jardin. Et mes parents ont supprimé les fleurs dans le jardin et on y a mis des légumes. On a eu une production. Bon, et puis dans le nord, on connaissait quand même des gens de la campagne. On n'a pas eu, par exemple, pendant 4 ans, moi, je n'ai pas mangé de chocolat ou de banane, ça n'existait pas. Mais on n'a pas eu faim. Bon, on avait d'autres choses. Et où on était vraiment malheureux, c'est que, par exemple, on n'avait pas de chaussures. On avait des chaussures à semelle de bois.
Ah oui.
Le bonheur, quand on a pu... Je ne sais pas pourquoi la Belgique était beaucoup plus... Et Cambrai, nous étions tout près de la Belgique. Nous sommes allés en Belgique nous acheter des chaussures en cuir. Ah, quel bonheur d'avoir des vraies chaussures en cuir.
Donc, le monde a évolué. Que pouvez-vous nous dire ou comment avez-vous ressenti toute l'évolution de la femme pendant ces 95 ans?
Oui, quand vous me dites de la femme, moi j'ai toujours été assez indépendante et j'ai jamais trouvé que la femme était un être à part. Donc l'évolution de la femme, oui, bien sûr, mais j'étais même petite fille et j'étais pas une insoumise avec mes parents, mais j'étais quand même très libre. Donc l'évolution de la femme, bon, qu'elle vote, hein, je me souviens, ma mère était très fière la première fois qu'elle a voté. Moi, je... Ben oui, ben très vite, j'ai eu l'âge de voter. C'était conduire une voiture. Ma mère, déjà, avait son permis de conduire. Mais pas, pour moi, c'était automatique. Voilà.
Et par rapport à la liberté que les femmes ont eue sur leur corps, hein, avec la contraception, tout ça, par exemple.
Ben, j'étais déjà... Je suis trop âgée pour avoir vécu ça de plein fouet, si vous voulez. Je me suis mariée tard, et heureusement mariée. J'ai beaucoup aimé mon mari, malheureusement. J'ai été veuve relativement rapidement. Mais la liberté de la femme, je ne voyais pas, parce que j'étais quand même dans ma tête assez libre.
Certainement grâce à la littérature.
Ah, peut-être, oui. Ça, j'ai toujours aimé beaucoup lire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est peut-être aussi pour ça que mon métier, ça a été d'être libraire. Vendeuse en librairie, mais libraire.
Et vous m'avez dit, il y a quelques instants, que vous aviez même participé à une émission de radio à France Inter.
À France Culture, il y avait, oui, une émission qui s'appelait « Les libraires savent lire », qui était tous les 8 jours. Et nous étions un groupe de libraires à participer à cette émission. Alors, j'y allais pas tous les 8 jours. Mais donc, on avait quelqu'un qui nous interviewait. Qu'est-ce que vous avez lu? Et on parlait de nos livres.
Et je crois que vous voyez nettement moins bien. Comment faites-vous aujourd'hui? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez à cause de votre âge?
Ben, à cause de mon âge, uniquement la vue. Ça, c'était pour moi une pénitence épouvantable. Je ne peux plus rien lire. Je ne peux plus rien voir. Je ne suis pas aveugle, mais je vous vois, mais je vous devine. Donc, les livres, eh ben, il faut qu'on me les lise. Alors, d'ailleurs, là, dans mon organisation de grand vieillard, j'ai 2 jours par semaine quelqu'un qui vient lire.
Est-ce que vous écoutez des fois les livres audio?
Oui, quelques fois, et puis toutes les émissions de télévision littéraires. Alors, même si je ne vois pas les gens, j'écoute quand même leurs commentaires, oui.
Vous recevez un peu d'aide, bien sûr, pour votre quotidien. Quels sont vos rapports avec ces jeunes femmes qui viennent chez vous?
Justement, je regrette, mais c'est ainsi que c'est installé, un organisme qui m'envoie ces jeunes femmes à midi au soir pour me préparer un repas et tout, une fois une demi-heure et une fois 3/4 d'heure. Elles sont toutes gentilles, charmantes, bien formées, mais je regrette énormément, c'est ainsi que c'est fait, que ça change tout le temps. Parce qu'il y en a 2 ou 3 qui sont plus sympathiques que les autres ou avec qui j'ai lié une certaine amitié. Mais et quelquefois, en 3 jours, je vois 4 personnes différentes qui ne me connaissent pas non plus.
Mais on m'a même dit que c'était voulu.
Oui, on m'a même dit, je ne comprends pas pourquoi. On m'a dit pour pas que vous vous liiez. Mais enfin, c'est très dommage ça.
Vous avez dû entendre, évidemment, j'imagine, parler de toutes les problématiques qui sont soulevées maintenant par les gens qui se retrouvent dans les EHPAD. Vous avez la chance de ne pas y être, mais qu'est-ce que vous pouvez...
Ah ben ça, j'ai dit à ma famille que je ne voulais pas. Je veux mourir ici, dans ma maison. Bon, une petite chance que ça arrive. Je me porte très bien, hélas. Mais enfin, j'ai quand même 95 ans, alors ça ne durera pas 107 ans. Je ne vais pas aller en EHPAD.
Et donc, c'est un scandale, en fait, en gros, ce qui s'y passe.
Ah, ce qui est dévoilé depuis quelques semaines, c'est un scandale qu'on aurait pu deviner avant. Hein. Ça, on a été un peu lourd. Parce que ça coûte très cher aux familles. Et quand on découvre maintenant qu'elles sont très mal nourries, qu'elles étaient lavées une fois l'an, c'est vraiment scandaleux ce qu'on a découvert. Et pourquoi l'a-t-on pas su avant ?
C'est toujours une histoire souvent d'intérêt.
Ben voilà.
Comment vous ressentez tout ce qui se passe ?
Ben, tout ce qui se passe au point de vue international, c'est une horreur, parce que c'est encore une fois une évacuation, j'ai su ce que c'était, et dans les meilleures conditions en 40, et pour elles, c'est pas la même chose. Hein. Et puis, je me sens très loin du monde de maintenant. Très, très loin.
Est-ce que vous auriez envie de dire quelque chose en particulier aux jeunes femmes qui débutent leur vie, par exemple ? Est-ce que vous avez des conseils ou...
Oh, je ne me permettrai pas de donner des conseils parce que je suis trop loin d'elles. D'abord, je n'ai pas eu d'enfant, donc je n'ai pas l'expérience d'avoir près de moi une femme qui aurait 20 ou 30 ans de moins que moi. Hein. Donc, je me permets ça. J'ai des enfants de mes amis qui me sont très proches, qui me sont... très gentil avec moi, mais je ne peux pas leur donner de conseils.
Au moins un conseil de lecture, peut-être.
Oh ben, il faut lire. Des classiques, des nouveautés, n'importe quoi, il faut lire. Parce que ça, la vie vient de la lecture.
Et un auteur en particulier ?
Non, pas spécialement. Je ne dédaigne pas les auteurs anciens, mais je suis attentivement la nouveauté littéraire. Je trouve que c'est intéressant parce que les bons auteurs reflètent la vie actuelle. Donc c'est intéressant de lire aussi des auteurs de maintenant. Mais il ne faut pas oublier nos classiques.
Alors vous avez été libraire toute votre vie, vous l'avez dit.
Oui.
Où étiez-vous, par exemple, pendant l'événement 68 ?
Ben, j'étais en plein dans Saint-Germain-des-Prés puisque j'étais à 200 mètres de Saint-Germain-des-Prés. Donc, tous les soirs, je voyais les défilés. J'avais peur pour ma vitrine parce qu'il y avait la foule qui défilait, il y avait la police. Ça a duré un mois. Puis un beau jour, la rue était devenue bizarre. Les gens, d'un seul coup, s'habillaient autrement. En mai 68, j'étais à mi-chemin entre Saint-Germain-des-Prés et Saint-Sulpice. Donc, si vous voulez, j'étais dans un quartier très de pointe et très bourgeois. C'était comme ça, le quartier. Et d'un seul coup, en plein mai 68, j'ai vu apparaître une faune. J'ai vu des filles en jean. En mai 68, les femmes s'habillaient pas en jean. D'un seul coup, en mai 68, j'ai vu des gens habillés d'une façon bizarre. Et puis, quand De Gaulle a parlé pour dire « maintenant, ça suffit hein, », il était revenu de, je ne sais pas où il avait été en Allemagne, d'un seul coup, la rue est redevenue normale. C'était très curieux, je voyais des petites jeunes filles bien coiffées avec un petit foulard Hermès, je n'avais pas vu ça pendant un mois.
Que un mois ?
Vous savez, mai 68, ça a duré à peu près un mois, hein, parce que ça s'est arrêté les derniers jours de mai. Et ça avait commencé les derniers jours d'avril, donc ça a été un mois. Et vraiment, la rue a repris son allure normale.
Pour ceux qui ne savent pas, c'était à Paris. Vous les avez vus, vous, les batailles de rue ?
Oui, c'était bataille. C'était assez houleux. Je n'ai pas vu des vraies batailles. D'ailleurs, Dieu merci, je crois qu'il y a eu un blessé grave, un mort, je crois. Mais c'était houleux. Bon, surtout le soir.
Donc, à part le changement vestimentaire, vous avez senti qu'après, il y avait quand même des changements ?
Oui, il y a eu des changements parce qu'il y a eu des changements dus par le gouvernement, d'ailleurs. Puis il y a eu des élections très vite après. Hein. Mais le changement vestimentaire, c'était quand même un épisode curieux. Il y avait une faune qui avait investi ce quartier qui d'habitude ne venait pas et qui est repartie après.
Mais ça apporte des changements aussi pour le quotidien des femmes.
Moi, je ne l'ai pas ressenti. Vous savez, moi, dans le fond, le quotidien des femmes, je ne m'en suis jamais tellement occupée. J'étais libraire. Et j'étais une épouse heureuse aussi. Ça, nous n'avons pas eu d'enfants. Mais le quotidien des femmes, c'est curieux parce que j'ai toujours trouvé qu'il y avait un combat des femmes un peu inutile. Elles n'avaient qu'à être elles-mêmes. Voilà comment je vois les choses, même peut-être... vis-à-vis des parents et vis-à-vis de son mari.
Mais peut-être que vous aviez la chance d'être d'une famille ouverte aussi.
Oui, et puis j'étais assez volontaire. Je me suis mieux entendue avec mon père qu'avec ma mère. Et puis avec mon mari, j'ai eu aucun problème. Le seul, c'est de le perdre trop tôt. Bah oui.
Donc vous habitez dans le Lot depuis combien de temps maintenant ?
Ben maintenant, ça fait 50 ans à peu près. Parce que quand j'ai pris ma retraite, je suis venue habiter ici. J'ai pris ma retraite en 86, quelque chose comme ça. Je suis venue habiter ici. J'ai vendu mon appartement de Paris et j'ai habité ici. Et j'ai créé la bibliothèque. Je ne peux pas me quitter du livre, moi. Je ne pouvais pas.
Eh bien, merci beaucoup, René-Marie. J'espère que vous aurez encore l'occasion de lire plein de livres ou qu'au moins qu'on vous en lise.
Hélas, moi, c'est fini. Je ne peux plus rien lire. Hein. Rien lire. Ça, c'est une pénitence terrible. Alors, j'ai le lundi, le mercredi, deux amis qui viennent me lire. Et puis, de temps en temps, je demande aux amis ou à la famille qui passe de me lire. Et puis j'écoute toutes les émissions littéraires.
Vous n'avez pas trop le sentiment de la solitude ?
Si, beaucoup. Et c'est ça le grand problème de la vieillesse. Vous savez, une après-midi, sans coup de fil et sans visite, c'est quand même très dur à vivre. Alors que je suis assez cultivée, assez, pas mystique, mais enfin j'ai une vie intérieure, si vous voulez. Mais ça me semble quand même l'horreur.
Et comment on pourrait remédier à tout ça ?
Je ne sais pas. Il faut vouloir d'abord cultiver les amitiés autour de soi. Mais je pense que l'entourage ne comprend pas toujours ce que ça veut dire, la solitude totale. Ça, je crains. Certains dimanches, quand il pleut, et donc il n'y a pas... Parce que quand je peux aller 2 heures au soleil, dehors... Il y a des oiseaux, il y a une vie dehors. Aujourd'hui, j'ai passé 2 heures dehors. Mais quand c'est gris, que je suis ici, mon petit chien a l'air d'être gentil. Il est gentil, mais c'est dur quand même. C'est très dur. Et ça, faut bien le dire, parce qu'il faut entourer les gens seuls et âgés. Surtout quand ils peuvent le lire. Quand je lisais, c'était moins dur. Mais maintenant, je ne peux pas compenser. Hein. Et les émissions de télévision, certaines sont intéressantes, mais en ce moment, elles sont catastrophiques. Donc, ce n'est pas ça qui remonte le moral. Hein.
Donc, en gros, est-ce que l'idée, ça serait de créer quoi, un petit cercle de jeunes, ou de moins jeunes d'ailleurs, pour aller rendre visite aux personnes isolées ?
Ça serait une idée. Ça serait une idée, ça. D'ailleurs, les deux lectrices régulières que j'ai le lundi et le mercredi, m'ont été amenés par un monsieur qui voulait s'occuper des gens âgés et seuls. Il est venu une fois, bon, c'est bien, mais c'est lui qui a déclenché la visite des deux autres dames. Et puis là, pendant les vacances, juin, juillet, bon, il y a la famille, il y a les amis qui passent. Alors là, c'est le bonheur pour moi quand j'ai des amis ou la famille qui est là, parce que je les vois... C'est sûr que la solitude absolue est très dure à vivre. Et j'ai la chance quand même d'être très âgé sans souffrance. Je n'ai pas de maladie, je n'ai pas de douleur. Donc il faut entourer les gens âgés.
Donc on rappelle, vous êtes à Castelnau-Moratier. S'il y a des gens qui ont envie de venir vous lire des livres, vous seriez d'accord ?
Je suis d'accord, moi, s'ils veulent venir. Ils seraient les bienvenus.
Eh bien voilà, le message est lancé. Merci Madame Guibert. Et on vous souhaite une bonne continuation.
Pas trop longue, hein ?
Pas trop longue. Et merci de m'avoir reçue.
Avec plaisir. C'est gentil d'avoir évoqué ce thème de la solitude au grand âge. C'est un vrai problème.
Merci beaucoup. À bientôt.
À bientôt, j'espère.
Tu es mon plus grand mystère, mon seul lien contigu. Tu m'enrubannes et m'embryonnes, et tu me gardes à vue. Tu es le seul animal de mon arche perdue. Tu ne parles qu'une langue, aucun mot déçu. Celle qui fait de toi mon entre, l'être reconnu. Il n'y a rien à comprendre, et que passe l'intrus qui n'en pourra rien attendre, car je suis seul à les entendre, les silences, et quand j'entends toi. Mon insolence et mon droit, ma je suis ton autre. Si nous n'étions pas d'ici, nous serions l'infini. Seul à les entendre, les silences, et quand j'entends toi, tu es mon autre. La force de ma foi, ma faiblesse et ma loi, mon insolence et mon droit.